Bonjour, bienvenue dans la deuxième partie de notre sixième épisode consacré à Tristan Moss, Shaper sous le nom de Fantastic Acid et Glacier sous le nom d'Atlantic Vibration. Si vous ne l'avez pas déjà écouté, nous parlons de son parcours, de ses voyages, de ses expériences de Glacier et de Shaper dans le premier épisode. On va maintenant parler de ses planches très particulières, les Displacement Hull. Petit rappel habituel, pensez à passer sur notre site shapeology.fr et sur notre compte Instagram shape.ology pour retrouver tous les liens utiles et découvrir le reportage photo de l'épisode. Bonne écoute!
Un hull, en fait, c'est une planche qui a un bottom shape, donc c'est-à-dire que le dessous, en fait, il est convexe. Donc c'est-à-dire qu'il est rond. Donc c'est, voilà, un hull, c'est ça. Donc hull, ça veut dire coque en anglais. Donc en gros, c'est inspiré des coques de bateau. Et donc un hull, en gros, ça peut être n'importe quelle planche. Tu peux prendre un shortboard d'Olmeric. Si le bottom il est rond, c'est un hull, tu vois. C'est même pas réellement. Il n'y a rien à voir réellement avec un outline ou les dérives ou les machins. Vraiment, quand on dit un hull, concrètement, ça peut être n'importe quelle planche. Tant que le bottom shape dessous il est rond, c'est un hull. Après, les planches des hulls, en fait, il y en a depuis toujours. Parce que les planches des anciens hawaïens, tu vois ce qu'on appelle les holos. Alors, pas les holos H-O-2-L-O-W, ouais. pas les planches creuses à la Tom Blake, tu vois, qui sont années 20. Je te parle de ça avant, les holos O-L-O qui étaient en bois, en koa. Qui sont des grandes planches super étroites que les rois hawaïens surfaient, celles-là elles étaient toutes convexes, donc tu vois c'était déjà des hulls en fait. Et pareil, c'était un peu le même principe hydrodynamique un peu qu'avec les pirogues et tout, tu vois, et donc, je pense que c'était inspiré de ça. Donc déjà toutes ces planches-là que les anciens hawaïens surfaient, elles étaient, en gros c'était des hulls. Après, toutes les planches sont toujours restées hulls, elles sont toujours restées avec un belly en dessous. Parce que tu regardes toute la période un peu années 50, tu vois, tous les Fangun, donc toutes les Pat Curran, toutes les Greg Knoll, les Hobbies d'époque et tout, il y a un gros belly V en fait sur le tiers avant de la planche, il y a un gros hull. Et même moi, il y a encore pas si longtemps que ça, je pensais que tous ces guns là en fait ils étaient genre flat bottom, peut-être avec un drive 50-50, tu vois, mais et en fait je les ai vus là dans la collection d'un ami là, Charlie, qui a que des Pat Curran et tout, et je les ai vus en vrai, j'étais là genre putain ouais, il y a un vrai hull en fait, ces planches c'est des hulls quoi, il y a un vrai belly, tu vois, genre au nose, au tiers avant, il y a un vrai belly V quoi. Pareil Bob Simons, alors Bob Simons plus c'était quand même le pro de l'anti-hull, mais quand même ces premières planches elles avaient en fait un léger belly sur le nose. Et après, il avait des rails, lui, qui étaient complètement ce qu'il appelait le hydrodynamic rail. En fait, c'était un rail, en fait, un rail de hull un peu qui revenait. C'était un rail inversé un peu. Et ça, c'est un peu un rail de hull. Et ensuite, après ça, donc fin des années 60, début des années 70, t'as eu toute la période de transition qu'on appelle la Charboard Revolution, ou la Transition Era. En fait, toutes ces planches-là, donc t'as eu George Greenhoff, mais même après ça, toutes ces planches-là, elles étaient toutes hull. Donc tu vois, j'en ai plein là qui n'ont même pas une gueule de hull parce qu'elles ont un os pointu et tout, mais tous les bottoms en fait, tous les dessous est rond. Donc en gros voilà, tu vois, les hulls en fait, le hull ça existe depuis toujours, le hull en fait, ouais. Tu vois, c'est voilà, c'est juste qu'après t'as Dick Brewer qui est arrivé avec les Dan Laurel et le flat bottom, donc ça c'était en 1967, et là ça a commencé à devenir genre bien sûr plus efficace pour ce que les surfeurs cherchaient à l'époque, parce qu'à l'époque en fait faut pas oublier que les shapers et les surfeurs ils cherchaient avant tout la performance. Alors qu'aujourd'hui c'est différent, on cherche un feeling, on cherche quelque chose de. On cherche une expérience différente aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'on est un peu arrivé au top du top de la performance, et que du coup, aujourd'hui, les gens ils cherchent autre chose, quoi. Ils cherchent peut-être une sensation. Ou moi, du moins, c'est ce que je cherche, quoi. Mais ensuite, voilà, il y a le flat bottom qui est arrivé, dans le réel, c'était beaucoup plus efficace pour aller taper la lèvre à 90 degrés, et du coup, le hull s'est un peu tombé aux oubliettes. Sauf un gars qui s'appelle Greg Liddle, et donc du coup qui lui en fait il a vraiment poussé le hull, il a dédié sa vie en fait dans ce design, dans ce type de design là. Il s'est dit moi c'est ça que j'aime surfer et je veux continuer à shaper ça toute ma vie, voilà. Alors en fait la petite histoire c'est que il était jeune, il était gamin, il était sur la plage de Malibu, Et donc, du coup, donc là, on est en 67. Ouais, c'était, je crois, en juillet 67, un truc de genre. Et t'as Nat Young, donc l'Australien, qui vient tout droit d'Australie avec, pour faire les championnats, donc en qualif. Et il vient avec une planche qu'il a chépée sous le label Kyo, donc K-E-Y-O. Il a chépé à Brookvale. Et il a chépé cette planche grâce à un template que George Greenough lui a envoyé, tout droit des US. Parce qu'à l'époque, George Greenough vivait encore aux US. Et donc, du coup, Nat Young dessine la planche, il shape la board. La dérive, c'est une dérive qui a été faite par George Greenough, donc Deriflex. Parce que ça, tu verras que c'est un truc indissociable des hulls, le design là. Et du coup, il arrive à Malibu, et là, Nat Young part du fond, il traverse toute la baie, il passe toutes les sections à une vitesse incroyable, avec un flow incroyable. Et t'as Greg Liddell qui est au bord, qui est gamin, tu vois, qui surfait encore des longboards de Jacobs. Et qui voit ça en fait. Et là, ça lui chamboule sa vie. Et quand il attend Nat Young sort de l'eau, il voit la board. Et juste, tu vois, genre visuellement, il s'imprègne de cette image, de cette planche. Et à partir de ce moment-là, il se met à shaper. Et là, il essaye de calquer en gros son modèle phare. Il essaie de calquer suite à cette image qu'il a eue de Nat Young, suite à cette planche-là. Et il passe sa vie à shaper ce design-là. Quoi. Voilà. Toute sa vie, c'est il shape que ce modèle-là. Enfin, son focus principal. Après, il a shapé d'autres trucs, tu vois. Mais par contre, voilà, 90% de ses planches, c'était des hulls. Et c'était vraiment basé sur ce template-là de Nat Young. J'ai la photo là-bas, je vais te la montrer après. Et voilà. Et donc, c'est vraiment. Je pense que lui, en fait, il a fait du hull quelque chose de contemporain qu'on appelle aujourd'hui le displacement hull. Donc aujourd'hui, quand tu dis displacement hull, tu penses pas aux planches des anciens Hawaïens, tu penses pas à toutes les planches de transition alors qu'il y en a partout, mais tu penses à Greg Liddell parce que voilà, il a un peu contemporarisé le design, on va dire.
Okay.
Et il a dédié sa vie à ça.
Et on entend aussi parler de planning hulls.
Alors planning hull, en fait, c'est le planning hull, en gros, c'est flat bottom. Voilà, t'as displacement. Okay. Displacement hull, en fait, c'est ça déplace de l'eau parce que c'est sous l'eau, enfin tu vois, genre le fait que ça soit belly, que ça soit rond, évidemment. Hop, et bah tu vois, le bout du belly, il reste dans l'eau, en fait, tout le temps.
C'est vraiment la coque de bateau.
Et voilà, c'est ça. Et le planing hull, en fait, il plane au-dessus de l'eau. Donc, voilà, on appelle. Alors, Bob Simons, il a. Donc, ça, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Il a fait. Donc, lui, c'était un peu un génie, tu vois. Il a fait des recherches grâce à un livre d'architecture navale qui était écrit par Lindsay Lord. Et qui, lui, Lindsay Lord, en fait, il a été payé par l'armée pour faire des recherches, en fait, sur l'hydrodynamique. Et en gros, lui, il a fait plein de tests pour comparer qu'est-ce qui était le plus fonctionnel. Est-ce que c'était le planing hull ou le displacement hull? Donc là, on parle de bateau, de coque de bateau.
Ouais.
Voilà. Mais lui, en fait, il a fait toutes ses recherches là-dessus, Bob Simons, et il a basé tous ses designs de planches sur ce bouquin-là, qui est à l'entrée là que je te montrerai après. Et du coup, en gros, ces recherches, des recherches sortaient, le résultat c'était le displacement hull est plus lent que le planing hull. Ce qui est vrai. Tu vois, genre, tout le monde dit aujourd'hui un displacement hull c'est hyper rapide, c'est plus rapide qu'un fish qui est flat bottom. Et en fait, dans la logique des choses, c'est faux. Le plus rapide c'est une planche qui a un bottom plat ou concave. Parce que évidemment, t'as moins de friction avec l'eau, en fait, t'es au-dessus de l'eau. Voilà. Alors maintenant, le truc, c'est que
il y a tous les autres facteurs qui
arrivent aujourd'hui qui n'étaient pas à l'époque, en fait. C'est que aujourd'hui, une planche flat bottom ou concave, ok, très bien, c'est censé être plus rapide, mais il y a plus de rockers, il y a peut-être des rails qui vont tirer plus d'eau, et surtout, il y a plus de dérives. Qui, tu vois, un quad, ça tire 4 fois plus d'eau qu'un single, en fait. Tu vois, t'as tous ces facteurs qui font que du coup, ça va ralentir la planche. Alors que un displacement de hull d'aujourd'hui est resté en fait avec les rockers d'époque. Donc avec des tels rockers qui sont à quasi zéro et donc qui génèrent une vitesse incroyable. Voilà.
Ouais, donc du coup le rocker c'est ça, c'est quasiment, enfin c'est très peu sur le tail, un peu au nose.
Belle accélération au nose quand même, ouais.
Ouais.
Ouais. Mais quand même un peu. Mais ouais, il y a quand même. En gros, il est très flat. Donc il y a un petit léger tail rocker, tu vois, tout petit peu, mais presque flat. Et concrètement, la planche est plate. Jusqu'au tir avant de la planche et le dernier tir avant, il y a une accélération de rocker.
Ah ouais, c'est vraiment
la
fin, quoi.
C'est ça. Et c'est ça qui génère la vitesse, c'est pour ça que ces planches elles sont rapides.
Mais c'est aussi pour ça que c'est ce principe-là que t'appliques dans leur conception.
Ouais. Bah après sur certains modèles, je change.
Tu l'adaptes et tout.
Sur certains modèles, je change les rockers et tout, mais j'adapte justement différemment. Parce que du coup, un rocker comme ça, c'est compliqué à tourner.
Ouais.
Tout le monde te dira, tu dis ça à Didier, Il va te dire, tu peux pas tourner une planche comme ça. Et il a raison en soi, parce que ça dépend comment tu la tournes. C'est juste qu'un displacement de hull, ça se tourne différemment. Tu sais pas du pivot sur la dérive. C'est une planche que tu sors sur le rail, tu viens engager le rail dans l'eau, et puis tu vois, c'est des longs pop, c'est différent, quoi.
Voilà. Et les rails, du coup, tu disais qu'ils étaient.
Bah, les rails, ils sont pincés parce que tu veux que la moitié de ta planche, elle vienne s'engouffrer dans l'eau, en fait. Tu veux vraiment rentrer ton rail et rentrer la moitié de la planche. Tu veux que la planche, elle soit prise dans la vague, en fait, tu vois. Tu veux que la planche, elle se déplace avec la vague, et tu veux. C'est un truc de fou, hein. C'est particulier. Moi, j'adore les hulls. Enfin, tu vois, il y a une dynamique que tu trouves nulle part ailleurs.
Donc, finalement, t'as l'avant de ta planche qui est embellie, qui va un peu chasser l'eau.
Ouais. Alors, attention, pas l'avant réellement. Le nose-nose, il est léger belly, mais là, c'est bien de le flatter un peu. Et c'est plus vraiment, c'est au niveau du torse pied avant que le belly doit être, que le hull doit être concentré, en fait. Si tu veux ressentir cette sensation. En fait, c'est une question.
Qui va t'aider à mettre le rail dans l'eau, du coup.
Aussi, ouais. Parce que c'est des appuis pied avant. Donc, en gros, tu sors vachement devant, déjà, parce que tous les outlines, tous les outlines, ils ont le maître beau qui sont avancés. Mm-hmm. Donc, évidemment, ton corps, il a envie d'aller là. Le sweet spot, il est ici. Tu vois, t'as un déséquilibre. En fait, si ton maître beau et ton épaisseur maximum, elle est ici, mais que toi, t'es plus derrière, t'as un déséquilibre, tu fais freiner la planche, tu vois. Donc, évidemment, ça sort vachement devant, déjà. Et c'est aussi pour ça que la dérive est avancée. C'est qu'en étant devant sur la planche, vu que la dérive est vachement avancée, tu peux continuer à avoir du drive, tu vois, du contrôle avec la planche. Et ouais, le belly, en fait, il vient. Il y a un truc, c'est que la différence du coup avec les planing hull, c'est que ça va créer cette sensation d'unité avec la vague. Parce que le fait que le belly soit toujours ancré dans l'eau, t'es tout le temps connecté avec la vague. Et ça, c'est une sensation que je peux pas réellement expliquer, mais que tu ressens dans les jambes, que tu ressens dans tout ton corps, et que tu sens vraiment quand t'as la bonne vague et que tu sens vraiment la planche qui est connectée à l'eau. Là, tu vois, c'est genre, enfin, c'est magique, quoi. Il y a une sensation d'unité, tu vois, avec la vague que t'as pas avec aucune autre planche.
C'est de foil avant le foil.
Même pas, mais même pas, parce que
non,
le
mais
foil.
Mais l'aileron du foil.
Ouais, ouais, ouais. Oui.
T'as vraiment un surf à moitié sous l'eau.
Ouais.
Ok. Et tu le surfes dans toutes conditions.
Alors, les gens, pendant des années, ont dit que les hulls, ça marchait que à Malibu, que à Rincon ou que sur les point break. Et en fait, moi, je le surf dans toutes les conditions, ouais. Moi, j'aime bien. Après, j'ai essayé de développer des trucs. J'essaye de bosser là-dessus encore. Et j'ai encore des années devant avant de. Parce que, évidemment, c'est pas. Ça dépend, mais ça dépend de ce que tu recherches aussi, en fait.
T'as pas qu'un modèle unique de.
Non. Justement, j'essaie de changer plein de trucs. En fait, j'essaie vachement de mélanger le planning hull avec le displacement hull, tu vois, de prendre les bons côtés du planning hull et de le mettre un peu sur un displacement hull, mais un peu plus modernisé pour. Tu vois, t'as envie de continuer à ressentir ce flow que t'as avec un vrai displacement hull, mais t'as envie d'enlever les inconvénients que tu peux avoir si tu surfes la grande plage ou je sais rien, un Lafitte Mare Haute, tu vois, enfin. Donc j'essaye de faire ça. Ça prend du temps parce que c'est pas facile, quoi, de mélanger les deux et d'arriver à un résultat qui est satisfaisant. Ouais.
Mais c'est beaucoup de longues planches.
Ouais, souvent dans le vrai displacement de hull, c'est souvent dans les 7-0. Entre 7-0 et 8-0. Non, après, moi, j'ai fait des grands modèles pour Parleux. Et après, j'ai aussi fait des modèles plus petits, quoi, pour, justement, pour la grande plage et tout. Ouais.
En fait, c'est un principe général que tu peux appliquer.
Mais c'est ça, en fait, c'est ça. Mais les gens, ils sont restés loqués pendant des années. Genre, le displacement hull, c'est l'outline Death Machine de Greg Liddell, c'est-à-dire le nose vachement rond et le mettre au beau super devant avec le tail rentré, tu vois. Mais en fait, c'est pas que ça, quoi, tu vois. Genre, en fait, ouais, moi, je me suis vite rendu compte. Mais moi aussi, je suis resté loqué là-dessus pendant longtemps, tu vois.
Ouais.
Et après, je me suis rendu compte, genre, ouais, tu vois, c'était vachement avec le parlementaire hull et tout. Je me suis vachement rendu compte.
L'outline pourrait être.
Ouais.
Pas n'importe lequel, mais.
Ouais, grave. Ouais, grave. Enfin, tu peux avoir un dos tendu.
Il faut un maître beau avancé dans tous les cas, quoi.
Pas obligé, non.
Ouais.
Tu vois, moi, sur mon modèle PMH, j'ai reculé le maître beau, je l'ai mis au milieu. Et c'est des appuis différents, du coup. Donc j'ai changé aussi les placements de dérive, j'ai changé le système de dérive aussi. Enfin, le système de. J'ai changé les dérives, tu vois, la profondeur de fins, etc. J'ai changé tout ça, justement, pour. J'ai changé aussi les rails, tu vois, l'edge au tail, etc. Mais en gros, t'as encore le flow du hull. Et tu peux. Là, par contre, t'es sur des appuis pieds, là. Donc tu peux faire un break and back, tu peux. Tu vois. Mais après, c'est pas encore. Même tous mes modèles, et. Enfin, je le dis humblement, ils ont encore. Enfin, j'ai encore tout à revoir, je pense, dessus, quoi. Tu vois, c'est que le début, je pense, du projet.
T'as moins de feedback que les planches d'autres styles de shape où tu peux te nourrir. Hein.
Ouais, mais après, mais en plus, moi, je fais pas trop attention à ça. J'aime bien avoir mon propre feedback personnel, tu vois. J'aime bien sentir les choses moi-même, mais je pense qu'il y a encore plein de trucs qui vont pas que j'ai envie d'améliorer, c'est sûr. Tu sais, pour arriver à un truc où tu te dis, ah, après, je sais même pas si. Parce que vu que ton surf il s'améliore aussi, tu veux toujours plus en fait. Ouais. Donc du coup, c'est compliqué de se dire ouais, là j'ai validé. Alors après, des fois, j'ai des retours de gens qui me disent ouais, là c'est top, c'est trop bien et tout, tu vois. Mais souvent, comme je te dis, en plus avec les voyages, des fois tu sors d'autres vagues ou tu rencontres d'autres gens, ou du coup ça te fait modifier des trucs, tu vois, et tu les fais toujours évoluer. Comme ça, c'est intéressant par contre, ouais, c'est trop bien. Puis quand tu vois, quand tu ressors des vieilles planches, et des fois tu ressors des vieilles planches et tu te rends compte que ce que tu faisais avant c'était mieux en fait. Tu vois, il y a ce truc aussi, ce facteur où tu dis putain merde, en fait c'était pas mal et tout quoi. Genre tu vois, ce rocker il était bien et tout, là je suis parti dans un délire, genre ça va pas quoi, genre c'était mieux avant en fait, tu vois, ça c'est possible aussi. Mais du coup ça s'arrête jamais, tu vois.
Il n'y a pas de vérité absolue sinon.
Non, non.
Ça se saurait.
Et puis pareil, c'est propre à chacun. C'est-à-dire ouais. qu'il y a des planches que moi j'arrive pas à surfer, puis t'as des clients ou des mecs qui disent putain elle est dingue et tout, c'est ouf, tu vois. Donc c'est vraiment genre c'est propre à chacun quoi. Ouais. Voilà.
Tu peux nous parler un peu de tes modèles, tes différents modèles?
Ouais, bah j'ai mon rounded hull un peu, donc ce qui veut dire, tu vois, le hull rond quoi, qui est en gros le hull intemporel classique quoi. Donc en gros, c'est, tu vois, c'est basé sur le hull un peu à la Lidl quoi, tu vois, avec le mètre bout avancé, le nose rond et le tail un peu resserré. C'est des formes généreuses, tout est rond, et là c'est voilà un belly assez profond, j'aime bien faire des réclinciers là-dessus. Et ça c'est le hull classique quoi, que j'adore. Donc, tu vois, là pour le coup c'est un modèle, je pense, bien verrouillé. Enfin là je vois pas trop comment je peux le faire évoluer quoi, à part faire des variations pour des customs, tu vois, changer des fois les, je sais pas, les largeurs, les rails et tout, mais sinon ça c'est voilà, c'est mon hull que j'adore surfer.
Petite précision,
ouais,
parce qu'on en a pas parlé, c'est toujours en single fin.
Ouais, franchement, ouais, alors c'est que du single fin. Après moi j'ai développé un modèle de twin, et après sur mon PMH là, sur mon progressive modern hull qui a le mètre au bout imperculé, là je suis en 2 plus 1, c'est-à-dire single fin avec des petites side fins.
D'accord, ouais, mais ça reste le principe
single fin. Ouais. Il y a juste un modèle que j'ai fait en twin. Ouais.
Et pourquoi des rails flexibles plutôt qu'une dérive?
Parce qu'en fait, tu as besoin de cette relance. En fait, tu viens, en fait, sur, avec un displacement de hull, tu viens vraiment chercher le plus long bottom turn possible. Tu vois, c'est ce que tu veux. Tu veux pas en fait partir directement en haut de vague. C'est, genre, tu veux vraiment aller tout droit, pousser le plus loin possible, et dès que tu peux, tu vois, c'est une question de. Il y a un moment clé, tu vois. Et là tu balances la planche en fait sur le rail, et en gros t'as la dérive, elle a emmagasiné toute cette énergie, et là elle vient repropulser la planche, qui du coup te propulse dans la poche en fait de la vague, là où c'est vraiment creux, tu vois, et là où t'as le plus d'énergie en gros. Et toi tu veux être là en fait avec ta planche.
Alors qu'une dérive fixe te donnerait pas la relance.
Bah non, avec ta dérive fixe t'aurais pas la relance, t'aurais pas sur
ces planches là
en fait. Exact. Bah en fait t'aurais pas cette relance là quoi, tu vois. Donc il y a vraiment un dialogue entre la dérive et le béni.
Ouais, c'est indissociable.
Ouais, c'est ça, ouais, vraiment. Voilà. Après tu peux ajuster le flex, tu vois, tu peux ajuster la profondeur de. Ouais. Après plus la dérive est profonde, plus elle est flex. Enfin ça dépend du foil et tout, mais par contre plus tes courbes vont être longues, ça va nécessiter des longues courbes, tu vois. Donc si tu rétrécis ta profondeur de dérive, tu peux avoir des virages plus serrés, et tu peux avoir un peu moins de flex si tu veux aussi pour avoir des virages plus serrés. C'est ce que j'essaie de travailler sur des modèles un peu plus grand public, un peu plus modernisés quoi. Okay. Tu vois, j'essaie de lier un peu les deux quoi. Parce que des fois c'est pas facile de devoir tirer des grandes courbes en fait, si t'as pas la place sur la vague ou tu
ouais,
vois,
c'est ça, ça demande des vagues où tu peux le
c'est
faire.
C'est ça, ouais.
Du coup, je reprends le train, donc ouais. J'ai la rounded hull.
J'ai mon rounded hull qui est le classique hull, tu vois.
La moderne progressive hull.
Ouais, alors, en fait, vraiment dans l'ordre, j'ai le rounded hull, après mon anti-static hull en fait, c'est mon hull pintail. Nose plus pointu, ça c'était plus pour des vagues avec un peu plus de rocker. Ça c'était plus pour des vagues. Genre tu vois dans les lances tu veux faire tu vois pour te mettre des tubes ou c'est plus des parce qu'en fait le cul resserré vraiment ça avec une dérive avec une base plus large quand même ça accroche vraiment et puis bah le nose moins large aussi ça aide quand même quand tu vois quand si t'as un nose super large dans des vagues creuses que tu redescends t'as le nose qui catch tu plantes quoi enfin tu plantes sur le côté je veux dire mais du coup le nose plus resserré tu vois un nose pointu pour les tubes c'est quand même plus facile
ouais.
donc voilà en fait c'était vraiment mes deux modèles ça. Et okay. À Bali, tu vois, je surfais que mon anti-static hull. En 7-6, là, sur Impossible.
Quand c'est plus gros, plus creux, plus.
Ouais, et puis en fait, ouais, je sais pas, là, à Bali, je surfais que ça, quoi. Ouais,
donc, c'est le gun du hull.
C'est pas trop le gun, non, c'est pas le gun non. Du hull. C'est la planche, je sais pas, c'est. Ouais, ou alors ton semi-gun, mais. Non, c'est plus ton. Ouais, t'as un.
C'est on un, est sur des cotes.
Ouais, 7-2, 7-6, ouais, tu vois. Ça reste du mid-length, en fait, mais. Nose resserrée et puis pintail quoi voilà un peu plus de rocker en nose et voilà ça c'est mes deux modèles et après en fait c'était mes deux templates et après suite avec ces templates là j'ai tout fait après quoi j'ai fait plein de trucs quoi donc j'ai essayé des trucs qui n'ont pas marché que j'ai pas gardé Et après, j'ai essayé des trucs avec des têtes plus larges. Il y en a un que j'ai pas gardé, tu vois, ça me plaisait pas trop, trop parallèle. Que j'ai aimé à une époque, puis maintenant j'aime plus. Mais en gros, ce que j'ai un peu verrouillé pour l'instant, là, j'ai mon PMH, mon Progressive Modern Hull. En gros, c'est vraiment mon Rounded Hull, en fait, mais que j'ai compacté, resserré le nose, élargi le tail en faisant un petit, on appelle ça un thumb tail, quoi, tu sais, c'est comme un pouce, c'est pas un squash, c'est pas un round, c'est entre le squash et le round, tu vois. Et ça, c'est pas mal. Et du coup, là, j'ai vraiment centralisé le maître beau. Et j'ai changé, comme je t'ai dit. Voilà.
Elle est vraiment équilibrée, quoi.
Ouais, elle est plus équilibrée, ouais, les dérives et tout, c'est différent aussi. Là, pour le coup, tu sens vraiment la différence, quoi, dans les turns et tout. Ouais. Et pour quelqu'un qui vient du thruster, tu vois, c'est plus facile à appréhender.
Ouais, du coup, ça la rend plus manœuvrable. Plus...
Ouais. Ouais.
Elle est peut-être moins rapide.
Ouais. Ça pardonne plus. Non, pas plus rapide, c'est juste qu'après je la fais plus dans les petites tailles. Et puis, ouais, t'as moins le côté, tu vois, le côté le longboard du Rounded Hull au nose, là, où tu peux faire des cheater fly, où tu peux. Où ça te lance bien aussi dans la vague, ouais. Tu vois. Là, en gros, sur le PMH, t'es plus derrière, donc c'est plus pour travailler la vague, en fait.
C'est entre le shortboard et le.
Ouais, ouais, bon, pas le shortboard, mais oui,
non,
tu peux travailler la vague.
Dans le style de surf,
ouais,
j'entends.
Ouais. Après, tu vois, le Rounded Hull, il permet vraiment de faire des trim lines, tu vois, genre, il y a tellement de nose, en fait. Que tu peux vraiment avancer sur la planche et si la vague a trace, tu vois, t'es dans l'élan de la vague à trace, tu peux vraiment avoir des lignes genre sans fin, quoi, tu vois, et générer de la vitesse. Alors que le PMH, en fait, tu peux pas vraiment faire ça, quoi, t'es plus derrière et puis tu peux faire ça, mais tu vas devoir travailler ta vitesse, tu vas devoir pomper un peu plus, quoi, tu vois. Ça, ensuite, j'ai fait quoi après? J'ai un petit stubby, donc en gros, c'est un peu comme le PMH, mais beaucoup plus classique, donc tu vois, on va dire, c'est. Et je le fais beaucoup plus petit aussi. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus large. Maître Beau, là, il a avancé. En gros, c'est les mêmes. En gros, c'est un peu comme le Rondendel, mais en plus compact, quoi, tu vois. C'est les mêmes. C'est pour les gens qui aiment bien surfer des petites planches. Alors que le Rondendel, j'aime bien le conseiller, genre 7-2, 7-4, vas-y, okay. Même 7-6, tu vois. Là, le Stubby, c'est 5-6, tu vois. Ah, 6-0, okay. Tu vois. Donc, en gros, c'est les mêmes atouts que le Rondendel, mais plus compacté. Donc, c'est pour les gens qui aiment bien les petites planches, quoi.
Et c'est les mêmes principes de Karen, Rocker, Rail.
Ouais, là, pareil. Ouais, ouais. Mais au niveau feeling, c'est pareil, quoi. Bon, bah, sauf que t'as quelque chose de plus court sous les pieds. Après, j'ai mon Flex Spoon, tu vois. Donc, ça, c'est bon, bah, ça, c'est pas moi, hein, c'est du George Greenough, mais c'est en gros, c'est une réplique du Spoon de Greenough. Bon, ça, j'en ai fait un paquet, j'en fais un paquet encore. C'est du boulot à faire. Et j'en ai eu plusieurs que je surfe. Il y en a un que j'ai craqué, c'était le tout premier, je l'ai craqué plusieurs fois parce que je les glaçais pas comme il fallait, je pense. Donc tu vois, j'ai beaucoup appris. Hein.
Tu peux expliquer un peu comment ça marche, parce que c'est quand même hyper spécifique.
En gros, c'est alors ça pour le coup, c'est vraiment le grand-père et le précurseur du Hull contemporain Lidl et du Flex Fin et du Flex Tail et de tout ça, en fait. Tu vois, le principe d'emmagasiner l'énergie dans une dérive ou dans un flex et de le relancer quand il faut, en fait, de l'utiliser quand il faut sur la vague. Donc ça, c'est fascinant, quoi. Tu vois, ça, c'est quelque chose que j'adore. Donc en gros, Greenough, il a... Bon, je vais pas expliquer qui est George Greenough, mais c'est quand même un génie qui a quand même vraiment changé, je pense, l'histoire du design dans les planches. Donc qui a inspiré, je pense, tout le monde et qui inspire encore beaucoup de gens aujourd'hui et qui moi m'a beaucoup inspiré. Là c'est un kneeboard. On parle de kneeboard. Lui, il a fait du stand-up surfing. Il a surfé debout Greenough à une époque quand il était jeune. Et après très vite, il est passé au kneeboard parce que lui, il voulait faire des manœuvres, il voulait faire quelque chose de plus, il voulait surfer plus radicalement. Et là, on parle de 62, tu vois, son premier spoon en balsa qui n'était pas encore vidé. C'est-à-dire que c'était en balsa, il était un peu creusé dessus, mais c'était pas transparent avec la résine et tout. Ça, c'était en 1962. Tu vois, il a récupéré des chutes de balsa que Pat Curren était en train de chipper un gun. Et du coup, lui, il était dans le même atelier là, chez Yatter, Santa Barbara. Et du coup, il a récupéré les chutes de balsa, il les a recollées, et du coup, il s'est chipé son premier spoon là-dedans en 62. Donc tu vois, lui, il voulait, en 1962, il voulait vraiment un surf plus radical. Donc pour lui, la solution, c'était planche plus courte et centre de gravité plus bas, donc kneeboard. Voilà. Il voulait plus profond dans le tube, enfin tout ça. Donc lui, il a essayé, tu vois, donc après celui-là, il a eu le SS MK2, là, le Super Sport MK2, c'était son premier spoon flex, vraiment en résine, là, mousse plus résine, où là, il évite la mousse et il n'y a que la fibre de verre au milieu. Ça, c'est en 65. Et là, il travaillait aussi déjà avec les dérives flex. Donc, c'est lui qui a calculé tout ça, qui s'est dit, putain, là, les thons, eux, tu vois, genre, quand tu regardes le poisson, le thon, ils ont un aileron, en fait, quand tu les observes nager, ils ont une propulsion grâce à l'aileron. Et du coup, lui, il a fait un aileron de thon, quoi, qui est magnifique. En plus, quand tu regardes la courbe des green-off, là, tu vois, les premiers stages là, qu'il a fait, ils sont magnifiques, quoi, et fonctionnels, en plus. Donc là, il était... voilà, donc c'est ça.
Et lui, à fabriquer, comment tu l'approches, du coup, parce que tu shapes la mousse que tu vas mettre devant.
Pour le spoon, tu veux dire, pour la planche?
Ouais, pour le spoon, parce que c'est quand même
En fait, bon, il y a plein de techniques différentes, mais lui, il a fait des moules aussi. Okay. Tu vois, donc il a fait des moules, j'ai fait ça aussi, j'ai essayé. C'était un calvaire. C'est un peu, parce que je pense que. En fait, ce qui était dur, c'était. On avait fait un moule en Californie avec Jeff Hull. Le moule était pas mal, je pense, mais après, donc on glaçait les strates dedans, les premières couches, on démoulait. Et le lendemain, on venait faire un masquage autour et on venait couler de la mousse dedans. Mm-hmm. La mousse PU qu'on fabriquait nous-mêmes. Et je pense que là, on chiait à chaque fois les mélanges de mousse. Mm. Du coup, la mousse était pas assez dense et quand je reglaçais par-dessus, ça fondait la mousse. Mais ça, fabriquer de la mousse, c'est un secret. Hein. Enfin, tu vois, c'est une science, quoi. Genre. Du coup, lui, il a fait des moules. Sinon, il y a la technique. Bon, voilà. Après, c'est. Enfin, c'est pas un secret, mais oui, il y a la technique où tu chèpes ton spoon, tu chèpes ton bottom, tu glaces le bottom, et ensuite, quelques jours plus tard, tu évites dedans, tu enlèves la mousse, et tu reglaces là-dessus les couches de fibres. Et en fait, l'intérêt d'avoir ça, parce que là, attention, en plus, c'est hyper galère à surfer. Enfin, pas à surfer, mais à retourner au pic ou à attraper une vague. Mais du coup, il y a quand même un intérêt à ça. L'intérêt à ça, c'est que du coup, vitesse, comme je te dis, il n'y a aucune friction en fait. T'as aucune friction avec la vague. Parce que, en gros, ta planche, elle épouse. C'est un rocker variable. C'est ça aussi les flex-tail. Je t'expliquerai après, les gars, tu vois, ils sont en Australie, là, un peu plus tard, ils sont inspirés de Greenoff pour faire des flex-tail, mais sur des planches où tu peux te mettre debout. Mais voilà, le spool, vraiment, il a un rocker variable. Et aussi, il y a un flex du rail au rail, tu vois. Donc il n'y a jamais aucune friction, il n'y a jamais aucune résistance, je veux dire,
elle se déforme
avec la vague. Ça se déforme avec la vague, ça épouse la forme de la vague. Donc t'as pas, tu vois, quand des fois tu fais un turn et t'appuies, ton tail il rentre dans l'eau, et évidemment ça va ralentir la planche en fait. Donc voilà, lui, son principe c'était aucune résistance, aucune friction, et puis bah, ça fonctionne, hein, ça, c'est, tu le sens, enfin moi c'est sûr que ça j'ai ressenti quand je surfe mes spoons, c'est le premier truc que tu ressens, quoi. Que t'as aucune friction, quoi. T'as l'impression d'être sur un nuage. Mais un peu comme quand tu surfes un hull aussi, en fait. Quand tu surfes un hull, bon, alors là, c'est différent parce que t'as des frictions, t'es dans l'eau et t'as des résistances, etc. Mais t'as cette même sensation, un peu, tu vois, de surfer un nuage. Tu vois, c'est hyper doux, en fait, comme sensation. Le hull, c'est ça. Et du coup, le spoon, c'est ça, décuplé puissance 10, quoi. Tu vois, plus la vitesse, quoi. Là, t'as une vitesse incroyable.
On t'en commande beaucoup ?
Ouais, on m'en commande beaucoup. Alors là, par contre, voilà, pour être honnête, j'ai plein de gens qui m'en commandent. Je pense parce qu'ils pensent, ils trouvent que c'est un bel objet, parce que c'est vrai que c'est un objet magnifique en termes de design. Mais à chaque fois, je dis attention, c'est très dur, c'est très physique. C'est pas dur après à surfer, hein, c'est pas technique, mais c'est très physique de remonter au pic, parce qu'il y a pas d'inertie en fait. La planche, elle flotte pas, quoi.
Ouais,
elle coule, la
planche. Nage, quoi, en fait.
Et ouais, et ben non, mais tu nages, mais avec un sac de ciment, quoi. Tu vois, c'est limite. Déjà, le spoon, c'est quand même assez lourd. Et puis en fait, quand tu la poses dans l'eau, tu vois, elle se remplit d'eau. C'est une baignoire qui se remplit d'eau. Et elle coule. T'as que le nose un peu où il y a un peu de mousse et un peu les rails, ça flotte un peu, tu vois. Par contre, en fait, ce qui est surprenant, c'est que dès que la planche, elle prend de l'angle, du coup, en fait, elle sort de l'eau. L'eau se vide et là après, bon, voilà, là tu gagnes. Là, t'as une vitesse incroyable. Là, y a plus d'eau dedans. Là, tu vois. Donc il faut une vague, il faut un minimum de vagues quand même. Et puis, ouais. Mais par contre, dès que ça prend une pente un peu, tu vois, la planche descend dans la pente, il n'y a plus d'eau dans la planche, et puis tu es au-dessus, là c'est bon, c'est parti après. Quoi. Mais voilà, c'est dur de remonter au pic, c'est impossible de battre avec des gens si c'est un pic où il y a plein de, enfin, où il y a genre 20-30 surfeurs. Si tu veux, eux, ils ont une longueur d'avance sur toi parce que tu peux te déplacer plus facilement avec une planche qui a du volume. Toi, tu n'as pas de volume, donc tu peux pas te déplacer. Mais bon, tu vois, j'en ai fait une pour Benoît, qui est un local d'ici, là, qui déchire avec, quoi. Et genre, c'est quand tu le vois, c'est impressionnant, quoi. T'as l'impression que c'est facile de. Après, il est costaud, hein, il remonte au pic, tu vois, c'est. Ouais, je pense qu'il a des bonnes gibbles, quoi. Mais ouais, voilà, du coup, le.
Oui, parce que ça se pratique avec des palmes, du coup.
Ouais, avec des palmes. Et il faut des bonnes palmes. Ouais, tu vois, genre les daffines et tout, c'est trop souple. Hein.
Ah oui,
il faut des palmes plus longues, en fait, qui sont lourdes et qui restent vraiment dans l'eau, ouais. Voilà.
C'est un sport à part entière, quoi.
Ouais, c'est dur. Moi, souvent, quand j'en fais, genre le lendemain, je suis en torticolis, quoi. Parce que tu sais, genre, après, c'est que je fais des longues sessions, mais tu sais, genre, t'es vachement comme ça et tout, tu vois, du coup, tu contractes vachement et tout. C'est pas. Alors, peut-être parce que j'en fais pas tout le temps non plus, tu vois. Honnêtement, j'en fais pas tout le temps, mais j'aime bien prendre, bah, j'en fais. Comme je te disais, c'est quand je fais des grandes journées plage, tu vois, souvent, je prends la planche où je peux surfer debout et je prends le spoon, tu vois. Et des fois, à la fin, hop, tu vois, quand c'est un peu moins bien, je prends le spoon. Ce qui est une erreur, d'ailleurs, parce qu'il faut quand même des bonnes bagues pour le spoon. Bah ouais, mais je sais, ouais, c'est clair. Mais la dernière fois que j'en ai fait, tu vois, c'était dans les Landes, là, à Conti, ça va. J'y étais quand il y a des bonnes vagues. Et là, c'était cool. Et là, tu te dis, ah ouais, putain, ouais, trop bien. En fait, beaucoup plus facile aussi de choper une vague avec quand il va, quand c'est les bonnes conditions, tu vois. C'est... Donc, voilà. Donc, ça, j'adore. Et puis, bah, ça, en fait, moi, j'en suis venu à faire ça parce que c'était dans une démarche un peu pour comprendre, tu vois, tout ça. Parce que, bah, j'étais à fond, donc, dans ma recherche des hulls et tout. Et un jour, j'en suis arrivé à me dire, donc, je revenais juste de Bali, j'arrivais juste en France et je me suis dit, putain, il faut que je fasse ça parce que c'est quand même le truc précurseur, en fait, des reflex, du hull contemporain, tu vois, genre avant cette planche de Nat Young, c'était Greenough, et c'est Greenough qui a dessiné cette outline pour Nat Young, enfin tu vois, c'était tout quoi, genre la source du truc, en fait, elle était là quoi, c'était le spoon de Greenough quoi. Donc j'en suis arrivé à me dire, il faut que je passe par ce process, que j'essaye au moins d'en surfer une fois, tu vois, genre que j'en ai un, que je passe par le process de fabrication, mais surtout que je surfe ça quoi, pour comprendre en fait. Et du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Alors j'ai passé des nuits sans dormir à réfléchir comment faire pour faire le spoon. Parce que là je t'ai dit comment faire, tu shapes le bottom, tu glaces le bottom, ouais, tu glaces le top, mais il y a des trucs, c'est quand même compliqué pour faire un truc en plus assez solide. Pour pas que ça craque et tout, c'est compliqué. Mais bon là ouais j'en ai fait un paquet quand même depuis. Et souvent, là tu vois je t'ai dit j'en ai fait un. Là il y a Benoît Moreau qui lui le ride souvent et qui m'impressionne, il le ride à la fit quand il y a 2 mètres. C'est incroyable de voir surfer le spoon, quoi, franchement. Et après, j'ai beaucoup de gars en canif, du côté de là où je vais à chaque fois, à Ventura, là, vers Santa Barbara, qui eux, bah, ça vient de là-bas. Hein, ouais. Greenough, il vient de Santa Barbara, donc eux, ils sont sensibles à ça, ils connaissent toute l'histoire. Et eux, souvent, c'est des bons riders, c'est des bons kneeboarders et tout. Ils rident le truc, ils connaissent, quoi. Donc ça, c'est cool.
Ok. Clientèle assez spécifique.
Ouais, c'est souvent des gars qui ont des bateaux pour aller sur les Channel Islands et qui surfent sur les Channel Islands, tous les spots, la Marmetta et tout, là où Greenough elle est surfée avant. Et c'est des spots qui sont où il y a personne en fait. Donc tu peux aussi, tu vois, genre arriver avec ton spoon tranquille et prendre ta vague et tout. Mais ouais, c'est des mecs qui connaissent vraiment quoi. Ils savent ce qu'ils commandent, tu vois, là, ils commandent pas le spoon parce que c'est joli et parce que c'est poliché quoi. Bon, souvent ils veulent la même couleur que leur bateau, tu vois, mais c'est des surfeurs, enfin c'est des vrais kneeboarders, toi qui. Okay. Ouais, ça pour moi c'est intéressant. Après donc j'ai ça, après donc bah on peut enchaîner sur les flex tail en fait, j'ai du coup après je fais des flex tail. En gros bon bah je vais pas tout expliquer mais le flex tail c'est un recours variable.
Le flex tail tu le fais sur toutes tes planches ou c'est...
C'est possible sur toutes les planches ouais. Après il y a des planches
c'est
par exemple.
C'est une option quoi.
Ouais non, ça peut être une option ouais. Après je le conseille pas à tout le monde tu vois, genre des gens qui sont un peu nouveaux dans le monde du hull, tu vois, je leur dis bah. Des fois on me demande la totale c'est avec le flex tail. Ouais. Alors d'abord commence sur un hull tu vois classique. Tu t'y fais, quand tu maîtrises vraiment le truc, tu peux prendre un flex tail. Et puis... Parce que le flex tail, tu descends encore plus le rocker. Là, le tail rocker, il faut qu'il soit à zéro. Sur okay. Mes hulls, sur tous les hulls, il y a toujours un.
C'est la planche qui se déforme et qui te refait
sur le hull. Qui... Voilà, qui te donne un petit kick tail. En gros, il n'y a pas trop de
mais
sens.
Mais il faut le forcer ou ça se fait naturellement
Non, non, ça se fait naturellement, ouais. Okay.
Mais ça rend quand même la chose plus difficile, selon toi
Moi, je trouve pas, personnellement. Après, c'est que moi, j'en sors depuis longtemps. Puis... Mais peut-être je peux ouais ça peut être plus compliqué peut-être tu vois genre
qu'est-ce qu'il apporte du coup
bah il apporte un léger kicktail en fait variable donc et il apporte surtout que quand t'es en mode trim c'est-à-dire t'es sur le mur de la vague et que t'es en mode vitesse du coup bah là le tail il est à zéro le tail rocker il est à zéro donc
ouais, c'est ça en fait ça te permet d'aller encore plus vite un cran au-dessus.
Encore plus vite et quand t'as besoin de ce petit kicktail en fait ça le flex tail qui vient te donner voilà. Après attention c'est une petite amélioration d'un léger rocker sur une petite partie arrière tu vois ce que je veux dire
ouais, parce que c'est des dimensions assez courtes les flex
c'est assez court et c'est pour ça que je dis aux gens que je les conseille pas directement vers un flex tail tu vois parce que c'est quand même compliqué de surfer une planche qui a zéro tail rocker. Et là, le flex tail, il vient aider un peu, mais il vient pas ajouter un vrai tail rocker. Un tail rocker, même si, comme je disais sur mes planches, c'est flat et tout limite, mais ça part toujours du milieu, en fait, un rocker. De la planche, du milieu de la planche. Ou, tu vois, ou du mètre beau, quoi. Mais en gros, c'est, donc, même si l'amélioration, elle est vraiment, infime, tu vois, sur mes planches. Mais quand même, t'as quand même ce petit truc. Là, le flex tail, en gros, c'est juste sur les derniers 6 inches, en fait, qui viennent donner ce petit kick tail.
Ouais, ouais.
Donc, c'est pas un vrai tail rocker. C'est
dans tous les cas, même quand ils se déforment, t'as quand même peu de rocker. Là,
exactement, ouais. Donc, ça aide un peu, mais ça remplace pas un vrai tail rocker. Mais voilà, du coup, c'est ça le principe.
C'est quand même esthétique à part.
Ouais, il y a le côté esthétique, c'est joli, c'est sûr. Mais bon,
enfin, après, pas que esthétique, mais je sais pas comment
dire. En surfant, tu veux dire
Non, mais ça. ça résonne un peu avec le spoon, quoi. C'est un mini spoon à l'arrière de son.
Bah, en fait, c'est ça qui s'est passé, c'est quand Greenough, après, il a bougé en Australie, il a été vivre en Australie, donc dans les années 70. T'as tous les Australos, ils l'ont vu surfer avec son spoon, et ils l'ont vu déchirer, tu vois. Ils sont, putain, ils l'ont vu genre. Avoir une rapidité, tu vois, une vitesse que eux ils pouvaient pas avoir avec leur planche, et du coup ils ont commencé à travailler là-dessus. Donc notamment Michael Cundit, que tu sais que je te disais pour qui j'ai travaillé là, à l'époque quand il était dans ce genre de délire, et surtout Chris Brooke. Donc lui Chris Brooke, il a vraiment fait pratiquement que de ça, quoi. Il a, il s'est dit bah moi je vais faire comme Greenough en fait, mais sur mes planches où je suis debout, quoi, tu vois, donc sur des vraies planches de surf, pas bennyboard. Donc c'est là qu'ils ont commencé à expérimenter les flextail. Voilà. Puis après, voilà, donc c'est eux qui ont vraiment inventé le, qui ont transmis le truc du spoon au, à une planche où tu te mets debout, quoi.
En tout cas, pour toi, le flex tail, c'est un plus, mais c'est pas ça qui fait
non,
le,
pas du
la
tout.
Spécificité de, non. De la planche, quoi.
Non, non, pas du tout, ouais. Ouais, okay. Voilà. Après,
vous faites les dérives, du coup, ce que tu me disais.
Ouais, alors les dérives.
Parce qu'elles sont assez particulières, quand même.
Ouais, les dérives, elles sont en volane.
Ok.
Donc le volane, ça donne plus de flex à la dérive. Il y a
celles que j'ai vues ou qu'on voit souvent sur tes planches, elles ont une base très large.
Non, ça dépend, ça c'est que pour le parlement tirable.
Ah d'accord.
Ça c'est pour un, okay. C'est pour un modèle particulier que je vais t'expliquer après. Non, par contre elles sont souvent profondes. Parce que aussi souvent les tails sont assez profonds. Alors c'est pas que pour ça, parce que je te dis c'était aussi pour la relance, tu peux avoir une bonne relance, si la dérive est flex et profonde, t'as une plus grosse relance. Mais aussi plus le tail est large, plus t'as besoin d'une dérive profonde pour pas chasser du cube. Voilà, donc moi j'ai quand même des tails assez larges, donc la dérive profonde aussi ça aide, enfin t'en as besoin. Les dérives, ouais, on les fait, bah moi j'ai des templates de dérives, quoi, que j'ai dessinées au fur et à mesure, que je change souvent, quoi, que j'améliore ou pas, et du coup je les fais faire, toutes les dérives amovibles, j'ai fait faire en Espagne par Dera, qui fait que des dérives, donc plus c'est un mec qui fait que des dérives. Donc j'envoie mes templates, il me fait mes dérives en volane. Ça c'est pour les dérives amovibles, et après toutes les dérives pour aileron fixe on les fait ici à l'atelier, c'est Nicolas qui les fait. Donc on fait les panneaux de fibres ensemble, et après lui il a les templates, il les découpe et il les foile ici, quoi, tu vois, il les foule là et il les foile ici.
Tu remarques une différence dans le surf entre le glaçon et la dérive amovible?
Ouais, moi je préfère quand même, ouais, j'aime bien quand même, je trouve que, alors je sais pas si je le sens vraiment, mais ouais, déjà c'est la dérive fixe quand même, enfin elle bouge pas, quoi. Genre dans un boîtier ça, il y a quand même toujours un micro jeu ou un truc,
ouais.
Là du coup ta relance elle est juste parfaite avec une dérive fixe, et tu peux pas espérer mieux, franchement. C'est, puis après c'est, moi j'adore quand même les dérives fixes, et, après j'ai un modèle que j'appelle le fish hull ou le full, et que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça. Bon, ça c'était plus une, pour développer un peu, à la base en fait c'était un, je voulais faire un, c'était un peu parti du template du PMH, et je voulais faire juste un cul un peu plus large, et mais avec plus d'accroche, tu vois, genre un cul large mais qui va pas déraper. Donc je me suis dit je vais faire un peu comme deux tails, parce que quand ton tail il est sous l'emprise de l'eau, en fait il est accroché à l'eau, tu vois, il dérape pas, quoi. Plus le tail est étroit, c'est pour ça qu'on fait des pintails pour les grosses vagues, c'est, tu vois, il vient en fait se couler un peu dans l'eau, il est englobé par l'eau, donc il dérape pas. Donc voilà, le principe c'était le fish hull, en fait c'était ça, c'était faire deux petits round tails en fait assez profonds.
Donc t'as quand même un fishtail.
C'est comme un fishtail, mais en fait c'est comme, en même temps c'est comme si t'avais deux petits round tails, quoi, tu vois, genre donc ça c'était le vas-y, dis-moi. Ouais.
Non, c'est bon, c'était le temps que l'image planche
marche. Ouais, du coup en fait
c'est vrai que c'est pas du tout un fishtail, non.
Non, tu vois, c'est pour ça. Alors ouais. Moi je le vois comme un fishtail, mais des fois les gens me disent ah ça vient d'où, je suis là, bah c'est comme un swallowtail mais plus profond, tu vois. Puis en gros, enfin tu sais les premiers fishtail, enfin pas les premiers mais t'avais les Mirandon Brothers là en Californie qui avait fait ça, en fait c'était, ils appelaient ça les je crois que c'était les twin pin, je sais plus, ouais, en gros c'était deux tails en fait, ouais. En gros c'était deux tails avec deux dérives, deux, ouais. Dérives de single, et en gros c'était deux planches en une, tu vois.
Et toi tu les fais round,
voilà, c'est ça, c'est plus, bah ouais, c'est ça, c'est un peu plus smooth, quoi, ouais. Qu'avoir un, en fait ça va avec l'idée un peu du hull et du flow que tu vas avoir, quoi,
quand ils sont un peu plus flex du coup aussi.
Pas forcément ouais. Au début le tout premier que j'ai fait pour moi, j'avais fait super fin le tail, donc c'était plus flex. Mais en fait, j'aime pas que le tail soit trop fin, j'ai changé ça, du coup j'arrête. Parce que je trouve que le rail s'enfonce trop. Là, le rail s'enfonce trop dans l'eau, j'aime pas ça. Là, j'ai envie de, justement, que le rail vienne un peu rebondir sur la vague, tu vois, et que tu puisses plus faire pivoter sur les deux dérives. C'est pareil, au début, ce modèle-là, je l'avais fait, donc il y a un double concave aussi, là, au tail, au niveau des dérives et un peu devant les dérives. Et tu vois, ça lift un peu le tail, et au tout début, ça, j'avais fait en single. Et en fait, j'ai pas aimé le. J'ai pas du tout aimé le feeling de ça. Donc j'ai grindé la dérive single, j'ai mis en twin. Et là, en fait, il y avait plus que ce que je recherchais, quoi. C'était un truc vraiment là. Donc c'est des grandes dérives avec un grand rake. Du coup, faut quand même avoir le pied bien placé. Tu vois, vraiment sur les dérives, un peu comme un classique fish, quoi. De toute façon, si t'as pas les pieds bien placés, tu attends pas la planche. Mais là, pied écarté, pied arrière bien sur la dérive. Et là, j'arrive vraiment à avoir un cutback à faire un S, quoi. Tu vois, plus qu'un Z, là, tu vois. Là, t'arrives à faire un S. Donc là, c'est intéressant. Ça, c'est pas mal. Après, moi, je suis pas trop un surfeur de twin. Donc, c'est moins mon truc. Mais tu vois, j'ai fait tester à des gars qui, eux, viennent plus de twin et tout. Ils sont là, ah putain, enfin une board que. Enfin, tu vois, genre, ça leur correspond un peu plus.
C'est un peu le compromis entre.
Ouais, voilà, moi, ça me correspond moins parce que moi, je suis vraiment un surfeur de single. Mais par contre, je sais que tu vois, genre mon pote à poux là, à Taïwan, qui vraiment surfe des twins et tout, là, il arrivait vraiment à la bouger la planche et en même temps, il surfe aussi un peu des hull des fois, donc il avait vraiment le flow, il arrivait à avoir l'highline, à faire remonter la board et tout. Donc. Grâce au belly, donc ça c'est voilà, ça c'est là-dessus que j'avais bossé dernièrement. Et après après j'ai fait d'autres trucs, j'ai fait le Mike Hull pile à le serin. En gros, c'était un peu inspiré de Michael Peterson, qui avait fait un espèce de stubby un peu avec un nose un peu plus pointu et la dérive vachement derrière. Bon, là moi ce que j'ai fait, c'est complètement différent, je l'ai appelé comme ça, mais c'est complètement différent, mais parce que c'est beaucoup plus étiré comme outline et tout. Mais en gros, c'était ça, quoi. C'est très basique, tu vois, genre c'est juste V au niveau de la dérive, et devant la dérive t'as le V, derrière la dérive c'est flat, et après ça évolue sur le belly. Belly il est quand même moins prononcé, vraiment là beaucoup plus de nose rocker, et puis l'outline il définit vraiment le truc, quoi. Il est beaucoup moins large, t'as ce nose un peu plus pointy, puis t'as ce squash, quoi, un peu à la Michael Peterson, là. Ça c'est cool, c'est très classique en surf, mais par contre ça permet une fois plus, quoi, c'est plus étroit, nose plus resserré. Tu vois, ça, en gros, ça serait un peu un mélange du Ronald Hull et de l'antistatique, quoi, qui est Pintel, tu vois. Donc là, tu gardes un peu de surface au pied arrière, c'est assez fonctionnel, quand même. Tu regardes un peu de surface au pied arrière, t'as le V, la dérive, elle est un peu plus droite et un peu plus raide. Donc tu peux avoir des virages un peu plus serrées, et puis voilà, ça c'est cool. Ça, c'est assez classique comme surf, quoi. Ça, y a un peu moins de caractère aussi, du coup, que d'autres planches, tu vois. Ouais. Mais ça correspond aussi à des gens. Et après, bah, j'ai mon modèle parlementaire que j'ai développé pour Parleu, et que ça a quand même été un peu une grosse partie de mes recherches, quoi. Et, okay. Et que là, je change encore, j'affine. Voilà, ça c'est.
Que la vague de parlementaire, elle est.
Elle est vraiment spécifique. Et puis, ce qui se passait, c'est que j'ai commencé à surfer Parleu sur des beaux jours, tu vois, quand il y avait un peu plus de houle que la normale, enfin tu vois, tranquillou, tu vois, en restant dans le chenal, tu sais, en descendant un peu ce qui décale et tout. Mais j'ai pris plaisir à ça, vraiment j'ai adoré, en fait. Donc du coup j'allais de plus en plus quand il y avait des grosses houles, j'allais là-bas et tout. Mais là le premier gun que j'avais, c'était un 9-6 flat bottom downrange. C'était un vieux gun que Jean il avait chez Pénage et qui m'avait filé. Donc j'ai commencé là-dessus, mes premières grosses vagues je les ai eues là-dessus. Enfin, quand je dis grosses vagues, pour moi, attention, je dis pas que c'est des grosses vagues, mais je veux dire pour mes capacités à parler, du coup c'était là-dessus. Et après j'ai eu Robin, du coup, qui m'a offert un gun pareil en 9-6, Robin Kegel de Gâteau. Donc je lui ai dit, donc il voulait m'offrir une planche, je lui ai dit fais-moi un gun pour parler, quoi. Donc il a réfléchi pendant longtemps et tout, il a commandé le pain, il m'a fait des rockers et tout. Donc là il m'a fait un beau gun pour parler 9-6, mais là c'était pareil, c'était, tu vois, flat bottom, des rails, tu vois, down rail, un peu plus doux. Mais donc là j'ai eu des belles sessions avec aussi. J'ai eu mes plus gros jours, je pense, là-dessus après. Mais il n'y avait pas ce truc, tu vois, j'avais envie de, il n'y avait pas la sensation du hull, et tu vois, j'étais toujours curieux de me dire, putain, mais là sur un drop comme ça, quand t'arrives en bas de vague, imagine avec un belly, tu vois, sur une vague monstrueuse comme ça, tu sens, j'aimerais trop sentir, en fait, ça serait quoi la sensation, tu vois, de sentir le belly là quand il déplace cette eau, quand il est maintenu dans une énergie comme ça, dans une vague qui a une énergie aussi intense, tu vois. J'aimerais vraiment voir ce que ça fait, quoi, tu vois. Donc j'ai commencé, et puis Jean en a, je me disais, putain, mais fais-toi un modèle et tout pour parler, là tu sors parler tout le temps, fais-toi une board pour parler, quoi, tu vois. J'étais là, ouais, je vais peut-être faire ça. Donc le tout premier parlementier à eux, j'ai d'abord fait, en fait, l'histoire, c'est que j'ai d'abord fait pour un mec, un portugais, un bon surfeur, mais qui voulait un hull mais plus long. Donc j'ai fait une 9-0 avec ce template là que j'ai designé, que j'ai un peu inventé. Je me suis dit, tiens, ça un jour, tu vois, ça sera, je vais me faire le même pour parler, mais je l'ai pas essayé. Alors c'était pas le truc d'aujourd'hui, c'était, le tel était un peu plus large et tout, les rockers étaient différents, Mais c'était le tout premier parlement Tiaol, donc tu vois, c'était un. Donc le mec, il a adoré, mais lui, il surfait, je pense, 1m50, 2m. La dérive, elle était complètement différente. C'était une dérive un peu classique, quoi. Tu vois, base un peu plus large, mais classique. Et après, j'ai. Et après, je m'en suis fait une. Non, j'en ai fait une pour un surf shop, Santa Clara Surf Shop. Donc c'était la même que l'autre, tu vois. Et là, j'ai commencé. Là, je me suis dit, bon, là, je vais me faire ça, je vais m'en faire une pour moi, tu vois, genre pour parler. Mais je vais quand même faire un peu moins large le tail. Je vais faire un peu plus genre gunny entre guillemets, même si les gars parlent quand ils, à chaque fois qu'ils me voient à parler avec, ils me sont là, ah, t'as fait ton longboard. Enfin, tu vois, pour moi, c'est pas les trois gars, quoi. Mais... donc, du coup, j'ai commencé à bosser là-dessus et je me suis dit, putain, je vais faire un truc qui va être quand même assez fonctionnel. Je vais commander des pains donc chez Westbank avec une latte en wedge et je vais foutre du poids aux noses. Enfin, tu vois, je vais vraiment concentrer le poids aux noses en fait sur le. Sur ce pain-là.
Donc,
je vais
faire. Du coup, la latte, elle s'affine vers le.
La latte, c'est un wedge qu'on appelle le wedge stringer, c'est qu'elle est très large aux noses. Et elle arrive à zéro au tail. Donc tu vois, t'as genre un millimètre de latte de bois au tail, quoi. Donc déjà, ça donne du flex au tail, vraiment. Mais surtout, t'as. Là, moi, la mienne, elle fait presque 2 inches au nose, tu vois. Donc elle a vraiment. Là, t'as un bout de bois, genre, ça crée vraiment du poids. Et pour parler, c'est parfait quand tu rames vraiment un vent, que ça déplace beaucoup d'eau, c'est une grosse vague. Souvent, les gros jours comme ça, c'est offshore fort, tu vois. Donc t'as du vent qui te retient. Donc d'avoir ce poids au nose, là, ça vraiment, vraiment, ça aide. Ça a été un truc où j'adore, tu vois, parce que tu sens que tu dégringoles dans la vague, en fait, tu sens que la planche vraiment elle dégringole dans la vague, donc tu la lances, c'est des rockers assez tendus, mais tu la lances, et une fois que la planche est lancée, dès qu'il y a un peu de pente, tu vois, avec le poids de la latte et puis bah, les rockers tendus, bah, la planche elle dégringole.
T'entraînes.
Ouais, donc là, tu chopes tout, tu chopes facilement des vagues, et puis ouais, tu pars bien avant, quoi, donc t'as le temps de faire tout tes coffres avant que ça te casse sur la gueule, t'arrives en bas de vague, du coup, tu peux engager un joli bottom. Donc voilà, j'ai fait cette planche là, donc la toute première, je l'ai glacée lourde, donc là il n'y en avait qu'une seule, c'était la mienne, il fallait que je la teste. Jean il était là quand on a designé la dérive à l'atelier, je voulais faire un truc spécial, j'étais là, putain, je le sens pas, genre une petite dérive comme ça, avec du flex et tout, je sens que genre dans, tu vois, dans 4 mètres là, ça va prendre toutes les vibrations en bas de vague et tout, c'est pas, tu peux pas mettre du flex partout en fait, tu vois, tu peux pas quoi, genre. C'est sûr, ça va prendre les vibrations, je vais me viander en bas de vague et tout, je le sentais pas, tu vois. Donc je regardais, Jean, il a émis l'idée, il m'a dit, putain, mais là, t'as fait un truc un peu inspiré, Pat Curren et tout, tu vois, genre, un peu éléphant de gun avec le maître beau devant, le tail resserré et tout. Fais un skeg, quoi, tu vois, genre, ce qu'on appelle le skeg, là, c'est comme les Tom Blake ou comme il faisait Pat Curren et ou tous les autres, tu vois, les premières brewers et tout, les bings et tout, qui avaient espèce d'aileron, en fait, avec une base très large. Et peu profond, tu vois. Et du coup, on a commencé à dessiner un truc comme ça. Donc, c'était un soir à l'atelier. Donc, on a dessiné une courbe, un peu la courbe du dessus. Là, c'était vraiment inspiré des skegs un peu de Pat Curren. Et après, moi, je lui ai dit, je pense, faut quand même une petite touche un peu, tu vois, de green off, quoi, tu vois, genre ce petit flex, puis se rake un peu et affiner un peu le type et tout. Et donc, là, après, j'ai dessiné j'ai fait une courbe. Ça a mélangé vraiment un aileron de Pat Curren et un aileron de green off, quoi. Et là, j'avais l'aileron du parlementiel. Qui est si spécifique, tu vois. Mais là, j'avais le truc, genre, j'étais là, putain, ça me parlait, je le sentais, j'étais là, genre, putain, là, je sens que ça, c'est cool, quoi, tu vois. Enfin, mais en même temps, je savais pas, j'avais jamais essayé, quoi. Donc, je fais la board, je la glace lourde, tu vois, genre, les rails, donc là, il y a genre 3,5 d'épaisseur, elle faisait 9,6, et elle était encore un peu large, cette version-là. Là. Elle faisait genre 22 de large. Ouais, 22, 22, un quart, je crois. Et là, il vient le temps de l'essayer. Donc positionnement de dérive, pareil, je regardais, je savais pas trop, bon là je pose la dérive ici, je pense que c'est bon, tu vois, glaçonne. Et là le jour, ils annonçaient une houle bah, quelques jours après, et là houle monstrueuse, tu vois, genre Bellara pète. Donc tu vois, t'as Bellara qui casse, donc pour que Bellara casse, c'est grosse houle et tout quoi. Donc je vais voir par le, c'était genre, ça saturait en fait, c'était trop gros, je pense qu'il y avait genre 6 mètres, c'était limite trop gros, ça cassait même pas, genre. Donc je me dis, bon, là j'ai toute la pression qui retombe, je me dis, bon bah ce sera pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain, tu vois. Donc je me prépare pour le lendemain et tout, j'avais jamais surfé la planche, donc je savais pas du tout ce que ça donnait. Donc je dormais pas la nuit, quoi. Tu sais, je savais que le lendemain j'avais envie de l'essayer, j'étais trop curieux. En même temps, je me disais, putain, t'as vu, coup, je vais arriver en bas de vague, je vais pas réussir à tourner la planche, tu vois, et je vais me faire manger par la lèvre, ou alors j'ai le cul qui va déraper parce que la dérive est pas profonde quand même, enfin tu vois, je savais pas trop, quoi. Donc pas facile, quoi, tu sais, genre assez anxiogène et tout. Donc le matin, je me réveille, je me prépare et tout, genre, tu vois, t'attends, machin, donc je prépare d'y aller l'après-midi. Donc j'y vais l'après-midi, j'arrive à Parleu, donc là ça casse, il y avait des gars dans l'eau, et là c'était fat encore, genre je pense qu'il y avait genre 4 mètres, 5 mètres, tu vois, genre, enfin, il y avait vraiment 4 mètres, quoi. Et en plus, c'était le lendemain de Bellarat, c'était en vrac encore, tu vois, c'était houle rentrante et tout, genre, pas rassurant. Parce que tu peux avoir gros mais propre, tu te dis bon, bah vas-y, tu vois. Et donc, je me mets à l'eau, il y avait du monde en plus et tout, je me mets à l'eau et là, je reste 3 heures au pic, tu vois, genre sous stress, quoi, essayer de choper une vague, mais en même temps, genre, tu sentais que la houle était puissante, genre, tu sais, j'étais pas serein, quoi, j'étais persuadé que j'allais faire mon. Enfin, je connaissais rien de la planche, quoi, tu vois. Donc, je savais même pas si le rocker ça allait le faire et tout, quoi, je me suis dit, je vais faire. Puis tu sentais que la houle était vraiment puissante et tout. Donc là, pendant 3 heures, je prends pas de vague. Vraiment, genre, je prends zéro vague, tu vois. Genre, je fais que m'échapper. Genre, je vois les 7 fantômes qui arrivent. Voilà, je m'échappe, je rame dans le chenal. Bon, déjà, je vois que c'est une bonne rameuse, tu vois. La planche, elle ramait bien et tout. Et puis j'essaie de revenir, de choper une vague. Putain, puis tu sais, genre, je pense que c'était concrètement. J'avais pas eu le déclic pour, tu vois, pour. Alors que j'en avais eu des gros parleux avant avec les autres gars, mais tu vois, t'es serein. Tu dis, bon, là, c'est Robin King qui me l'a chépé. Enfin, tu vois, c'est bon, quoi. Donc, et là, c'était pas pareil. Je connaissais pas les concepts et tout de la planche, quoi. Donc, et du coup, bah là, j'arrive, je prends une vague, tu vois, genre une grosse qui décale, parce que j'étais à moitié, tu vois, sur le côté, quoi. J'essaie, je prenais pas de risque, j'étais pas à l'intérieur. Là, une grosse qui décale, je me dis bon, c'est maintenant, je rame, gros drop, et je mets la vague, tu vois, je sors de la vague, et là, waouh, putain, genre, tu sais, trop heureux, t'as le sourire jusque là, putain, je l'ai fait, genre, t'as toute la pression qui retombe, et là, j'étais là, putain, je sais, ok, bon, bah, j'ai réussi, genre, ça accroche de ouf en fait et j'arrive à faire mon bottom et genre c'est cool quoi, putain tu sens le, bon j'avais besoin de plus pour sentir la planche mais je disais bon ok c'est bon quoi. Et là donc je prends une ou deux autres vagues et après je sors de l'eau, genre il fait nuit tu vois donc pas beaucoup de ressenti. Et après le lendemain je me dis bon bah là c'est, bon bah tu vois la houle descendait un petit peu mais il y avait encore genre, tu sais il y avait encore 4 mètres à la bouée, il y avait genre, c'était encore costaud, il y avait des belles vagues et là bien établi, bien offshore et tout. Et la houle elle est restée comme ça pendant 3 jours et en plus c'était Covid et le deuxième Covid je crois moi. Et donc là, pendant les 3 jours, alors là, du coup, j'étais après. Je commençais à être en confiance un peu plus avec la planche, tu vois. Et là, je commençais à ressentir, tu vois, à m'amuser, à ressentir, à pouvoir aller un peu plus à l'intérieur et tout. Et là, j'adorais, ouais, là, c'était trop cool. Et là, le lendemain, là, j'ai eu des vagues incroyables. Le jour d'après, j'ai eu des vagues encore plus incroyables. Et puis là, j'étais conquis par la planche, quoi.
Et du coup, t'as réussi à retrouver tes sensations de hull dans le gros, quoi.
Incroyable, ouais. Là, j'ai eu des trucs. Voilà, j'avais vraiment genre quand t'arrivais sur le mur qui était quand t'arrivais sur un mur, tu vois. Alors souvent en plus ce qui était trop cool, c'est qu'avec cette planche, je pouvais m'amuser vraiment à descendre en bas de vague, surtout à part le, parce que la vague elle est quand même assez lente et plate, tu vois. C'est pas, je veux dire, c'est, bah, justement c'est pas comme Sunset où tu vois ou plus ou une autre grosse vague, mais là t'as vraiment du temps pour venir travailler ton bottom. Donc en gros là, moi je partais bien avant, je tire le bottom, je viens bien tout droit, tu vois. Puis après j'arrivais à tirer un gros grab rail qui me repropulsait en fait dans le mur de la vague. Et là j'arrivais dans le mur de la vague, pff, là je me mettais bien droit et là tu sentais vraiment le BI qui poussait l'eau, mais qui poussait l'eau positivement, tu vois. C'était pas négatif, genre putain la planche a poussé l'eau, tu vois. C'était genre, c'était parfait quoi, genre le tu vois, le tempo de la vitesse de la planche, en même temps la planche qui freine un peu, tu vois, donc qui te retient là où il faut rester en fait. Magique, la sensation que tu ressens dans les jambes et dans tout ton corps et tout là, c'est, tu, en fait t'as vraiment l'impression de ressentir le, bon déjà tu ressens chaque seconde intensément quand c'est gros comme ça, tu chaque seconde t'as l'impression que c'est une minute quoi, tu vois, tu sens, t'entends les clapotis de sur la planche, t'as plein d'étails qui restent et tout. Mais en plus de ça, avec cette planche, ce bottom shape qui est particulier, tu ressens vraiment là l'énergie de la vague quoi, plus je pense que quand j'étais sur les guns flat bottom. Là, tu ressens toute l'énergie de la vague, c'est incroyable. Tu sais, tu te dis putain, tu ressens vraiment ce qu'elle a dans le bide en fait, la vague. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment un truc additif que j'adore quoi. Genre, et du coup, après bah, j'ai enchaîné les sessions à part le avec ce board.
Tu l'as fait évoluer ?
Que j'ai encore la maison. Je l'ai pas fait évoluer pendant longtemps. Puis, j'en ai pas fait pour beaucoup de personnes parce que tu sais, les gens à chaque fois, ils sont là, ils ont peur d'aller à part le avec ça, ils sont là. Enfin, tu sais, à chaque fois, ils sont là, putain, mais après, donc, tu sais, ces jours-là, on avait shooté avec Thomas Laudin, il était venu documenter, parce qu'il avait documenté tout le chef et tout, donc il voulait documenter tout le truc. Et lui, il avait suivi, donc, du premier jour, là, le lendemain de Bellarat, et il était là quand, lui, il était resté 3 heures dans l'eau aussi, pour le coup, à attendre que je prenne une vague, et tu vois. Et par contre, et après, il avait eu les 3 autres jours, il avait shooté les 3 autres jours, où là, on avait enchaîné, là, j'avais enchaîné pas mal de vagues et tout, pas mal d'heures dans l'eau, là, on avait vraiment, j'avais pu vraiment analyser la planche et la sentir, quoi. Et lui, après, avec les photos, on a pu voir aussi, tu vois. On a pu analyser, genre, ah ouais, putain, tu vois, là, tu sais, tu voyais, genre, la pénétration du rail dans l'eau, tu voyais, genre, tout, quoi. Donc, ça, c'était cool. Et en gros, ouais, les gens, finalement, à chaque fois, tu sais, ils voyaient les photos, puis ils me disaient, putain, un chapeau, parce qu'avec cette dérive-là, enfin, tu sais, ils y croient pas, quoi.
Ouais.
Même aujourd'hui, alors aujourd'hui, un peu plus et tout, parce que, tu vois, j'ai réussi à faire tester à d'autres gens, puis là, ça y est, j'en ai d'autres, tu vois, j'ai j'ai des gars qu'on, bah, j'ai le Benoît, le même gars, j'ai mes clients un peu fidèles, tu vois, puis j'ai un gars, un vieux de Lafitte, là, enfin, un vieux, j'espère qu'il va pas écouter, mais j'ai Thierry de Lafitte qui charge aussi à Lafitte et qui a acheté un parlementier à eux qui surfe à Lafitte vachement. J'ai un autre gars, tu vois, j'ai des gars d'ici qui ont acheté, et qui surfent, quoi, tu vois, donc ça, c'est cool, ça y est, là, tout doucement. Puis, tu sais, les gars de Parleux, je pense que, bah, depuis des années, à force, ils commencent à voir un petit peu. Donc, ils se disent, bon, ok, bon, bah oui, ça va, il arrive à en avoir avec son longboard, quoi. Enfin, tu vois, du coup, ils sont curieux, ils sont là. Putain, mais là, ta planche, elle est toute ronde dessous, et ta dérive, elle est comme ça, et tout. Et je suis là, ouais, bah ouais. Puis, tu vois, ils le voient après que tu prends des vagues, et puis, c'est juste que tu sors différemment. Je leur dis, c'est juste que c'est un surf différent, en fait, c'est tout, quoi. C'est pas, du coup, il n'y a pas, moi, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la solution. Je suis pas en train de dire le parlement tiaol, il est mieux que toutes vos planches, et c'est pour ça qu'il s'appelle le parlement tiaol. C'est pas ça, en fait. C'est juste que c'est un sort différent que moi j'adore, quoi, et que j'adore partager avec les gens. S'ils ont envie d'essayer, je suis content de leur dire, vous allez voir, c'est autre chose, quoi. C'est une manière différente d'appréhender le surf et la vague, et en soi, c'est un peu comme mon regard sur la société, ou sur, tu vois, sur le. La société dans laquelle on vit, dans laquelle on évolue, tout ça, c'est juste, il n'y a pas de pensée unique, en fait, c'est juste une manière différente de voir la vie, quoi. Tu vois, tu peux kiffer par le, en fait, sans avoir une planche ultra performante, et c'est sûr que tu vas pas travailler la vague autant que c'est un gun thruster, etc., mais tu vas apprécier la poésie, un peu, je pense, qu'il peut y avoir dans la vague, tu vois, ou qu'il peut y avoir dans le surf, en fait. C'est un peu de la poésie, moi, je trouve, ces planches-là. Pas que par le parlementaire, je parle même les hull en général, je trouve que c'est un peu poétique comme manière de surfer, parce que tu ressens les choses, et si on te voit de l'extérieur, tu dis, ouais, bon, le mec, il casse pas un turn, tu sais, genre, il fait rien, quoi, en gros. Genre, il reste sur sa planche, et la planche, elle fait tout le boulot, et tout. Ouais. Mais moi, c'est ma manière de voir le surf, et aussi et la société, quoi. On n'est pas toujours obligé de faire toujours plus, on n'est pas toujours obligé d'être toujours plus performant, on me fait croire ça, mais on n'est pas toujours obligé d'avoir toujours plus d'argent, de devoir acheter à tout prix un bien, ou tu vois, moi je suis en loc, je suis très heureux, j'ai du temps pour surfer, et je pense que c'est important aussi des fois de voir ça, tu vois, en fait, des fois on est manipulé, on vit sous illusion, en fait, on a l'impression que on nous fait croire que c'est comme ça qu'il faut vivre, ou que c'est comme ça qu'il faut surfer, et tu vois, et en fait, je suis pas d'accord avec ça, par contre, voilà, je pense que, alors je dis pas que ma manière de voir le surf ou la société en général, c'est la bonne manière de la voir, mais je dis juste qu'il y a différentes manières de la voir, et qu'il faut laisser les gens... la vivre comme ils la veulent, en fait, tu vois, tu peux vivre différemment, tu peux surfer différemment, et voilà. Mais bon, bref, du coup, voilà. Mais après, du coup, oui, j'ai fait évoluer, en fait, en gros, pour faire court, tout le monde compare toujours Parlementia à Sunset, tout le monde dit que Parlementia, c'est le French Sunset, et il y a plein de comparatifs là-dessus. Puis t'as tous les surfeurs ricains qui, à l'époque, dans les années 70, venaient surfer Parlementia, tu vois, t'avais Mickey Dora qui surfait beaucoup Parlementia, alors qu'il avait aussi beaucoup surfé Sunset. T'as tout ce mythe là qui est autour de ça, et en gros, j'étais là, putain, bah, prochaine fois que je vais à Hawaï, je me fais un parlementier à eux et je surfe Sunset, comme ça je vois si vraiment la vague elle est pareille déjà, et même si elle est pas pareille, au moins j'aurais surfé les deux vagues qu'on dit, tu vois, qu'elles sont un peu de la même famille, quoi. Donc la dernière fois que j'ai été à Hawaï, au mois de novembre là, dernier, du coup, j'ai été là-bas dans le but vraiment de faire que ça, quoi. Donc avant, j'étais en qualif, là, j'ai bossé, j'ai fait les sous. Et après, à Hawaï, j'ai fait une petite prod de planche, pas beaucoup. Mais je voulais, pendant les 3 semaines où j'étais là-bas, je voulais avoir du temps libre pour surfer Sunset, et donc pour me faire cette planche déjà, et surtout pour me préparer à tranquillement, tu vois, appréhender Sunset et le surfer, tu vois, genre tranquillement, prendre le temps. Parce que tu sais, quand tu sors du gros, enfin, du gros, je dis du gros, mais il y en a qui vont rigoler, c'est pas du gros, mais. Enfin, pour moi, c'est gros quand tu surfes 4 mètres et que t'es pressé parce que tu dois aller bosser juste après, ou parce que tu sais, t'as des trucs en tête et tout, c'est pas pareil quand même. Donc là, je voulais vraiment être focus sur ça et avoir du temps pour faire le vide dans ma tête et bien pour être bien reposé, tu vois, genre bien dormir, bien manger, pas être pressé, tu vois, puis avoir le temps de, si je veux rester 4 heures à l'eau à Sunset pour choper juste 2 vagues, mais au moins les choper, tu vois, et pas être stressé, le faire, quoi. Donc du coup, j'ai fait ça là, l'hiver dernier, j'ai fait ça. Je suis arrivé, j'avais commandé un pain, le même que je prends d'habitude, mais j'avais ajouté du rocker aux noses, en anticipation. Je me suis dit, je vais anticiper, évidemment, Sunset, tout le monde dit que c'est pareil que Parleux, mais évidemment, c'est beaucoup plus creux que Parleux, j'en suis sûr. Enfin, j'avais déjà surfé, moi, en petit planche, un petit jour, tu vois, mais là, je savais que sur un jour comme ça, ça allait être comme ça. Donc, du coup, j'ai commandé un pain avec plus de rocker aux noses, et un peu plus de kicktail aussi au tail, et j'ai modifié la outline quand je l'ai shapé. J'ai fait une entrée de rail un peu plus pinchy, pour que ça accroche un peu plus. Et j'ai resserré mon nose, j'ai fait un nose pointu en gros, j'ai fait un nose plus pointy. Et j'ai resserré le tail vraiment. Et la planche aussi plus étroite. Donc j'ai fait un truc vraiment plus gainy quoi. Et je l'ai fait un peu plus grande, j'ai fait en 10-0. Donc tu vois vraiment, vraiment plus gainy. Et je l'ai essayé à sunset. Donc premier jour avec, je me suis mis un gros steak. Enfin, première vague avec, je me suis mis un gros steak. Genre, j'ai piqué du nose direct. Et je me suis dit, bon, ok, donc là, il n'y a pas assez de rocker encore, tu vois, j'ai vu que c'était pas suffisant. Enfin, j'ai fait une petite accélération en plus au rocker, au nom de rocker. Attends, peut-être qu'il veut le dédanger. You want the air or no? After?
Hein?
You want the air or it's okay? Later? Yeah, okay. We are almost done, I think so. Et donc, du coup, j'ai modifié ça, et ouais, donc comme je faisais première vague à sunset avec. C'était un beau jour en plus quand même, il y avait de la houle quand même, et bon, j'ai piqué du nose direct, donc j'ai compris. Donc là, je vais surfer un peu différemment, j'essaie aussi de partir de beaucoup plus loin. Et après, c'était cool, ouais, j'en ai eu des bonnes à sunset avec, c'était cool. Bah franchement, tu sens encore plus la planche parce qu'il y a encore plus de murs. Donc bon, le drop, il est un peu plus intense que par le, il est quand même si tu restes un peu à l'extérieur ou que tu vois, il est quand même beaucoup plus chaud le drop à sunset. Donc là, il faut vraiment essayer de partir de plus loin, et puis à chaque fois, je balançais mon poids plus derrière, tu vois. Le kitel, il aidait bien aussi, tu vois, il levait un peu plus la planche. Et par contre, après, une fois que t'arrives dans le mur de sunset, c'était cool là, pour sentir la planche et tout. C'était... Là, tu sentais encore plus que par le pas pour le
coup. Est-ce que t'as plus de tail rocker du coup sur le.
Un peu plus de kitel, ouais, j'avais un peu plus de kitel sur celui-là. Pas vraiment tail rocker, mais en gros, les deux derniers pieds, tu vois, devant des rives, derrière des rives, là, j'avais une accélération de kitel, quoi. Et aussi pour que ça vienne un peu plus épouser la forme de la vague, quoi, tu vois, parce que sur une grande planche comme ça de 10-0, tu vois, c'est quand même. Soit tu surfes une méga grosse fat vague et du coup ça passe, soit si tu surfes juste tu vois 4 mètres vu que la planche a fait déjà presque la taille de la vague, en gros tu sais il faut, enfin tu vois c'est bien d'avoir un peu plus de courbe en fait dans tes rockers quoi, pour que ça épouse un peu plus la forme de la vague. Et voilà, et après suite à mon retour à sunset, j'ai quand même raccourci un peu les largeurs, j'ai fait mes planches un peu plus étroites quand même. Et là je me suis fait une version que j'ai fini la semaine dernière. Je me suis refait, parce que moi j'avais toujours, là je refais toujours l'ancienne version en France, puis après celle de Sunset j'ai vendu là-bas. En gros, en France je refais toujours ma toute première version, enfin tu vois la seule quoi. Et donc là, dernièrement, là pour cet hiver, je me suis fait en gros ma version Sunset, la même là, pour parler, en 10-10, donc en plus grande. Le nose un peu plus étroit encore, mais arrondi. Et moins de kitel par contre. Un peu plus de nose rocker et moins de kitel, un peu plus flat parce que pour parler ça passe quoi. Donc voilà, et là j'ai essayé la semaine dernière, puis j'ai surfé hier et tout, et c'est cool hein, franchement c'est encore mieux que la 9-6 quoi, tu pars bien plus avant, donc tu peux prendre les plus grosses.
C'est beaucoup plus grand.
Ouais, c'est beaucoup plus grand, ouais. Tu le sens quand même. Mais par contre tu peux vraiment prendre les plus grosses, je trouve. Tu vois, des fois sur les grosses avec la 9-6, j'étais limité en light take-off, c'était chaud. Avec la 10-10, je peux partir de plus loin, je peux vraiment la lancer, c'est une très bonne rameuse. Donc je peux vraiment la lancer avant et partir vraiment avant, donc et puis elle est beaucoup plus raide aussi, elle est beaucoup plus safe. Tu vois, le tail là il est beaucoup plus étroit que la première version. Je sens que ça lock la planche vraiment. Elle est là, c'est vraiment safe. Je me sens bien avec, tu vois. Je me sens pas en mode, tu vois, genre là putain, je suis sur des œufs. Genre ça va être chaud. Des fois, avec la première version, dès que ça commençait à être vraiment fat et qu'il y avait un peu de bump et tout, ça pouvait faire un peu ça. Mais le tail était quand même beaucoup plus large. Là, j'ai vraiment raccourci presque de 2 inches. Tu sens la différence quand même. Je suis presque en mode pintail, tu vois. Voilà, voilà, voilà.
Bah écoute, on a fait un bon tour de tes planches là.
Ouais.
T'en as d'autres encore ? Non, je crois qu'on a fait le tour.
Non, ouais, c'est tout. Ouais. Ou j'ai peut-être en oublié 2-3 trucs. Après, j'ai eu des tests et tout, mais non, j'ai pas.
Si t'as encore 5 minutes, j'ai des petites questions. Mm-hmm. Pas sur tes planches, mais du coup, j'avais vu que t'avais sorti des bouquins aussi.
Ouais.
Ouais. T'en as fait plusieurs même.
Ouais.
T'as fait Tiffanzine aussi.
Ouais. En fait, le tout premier bouquin que j'ai fait, c'était Glass Shop. Et en gros, c'était une rétrospective sur. Bah depuis le début, moi je prenais des photos tout le temps parce que toujours, tu vois, passionné quoi. Donc tu vois, comme toi, quand t'as envie de contribuer encore plus à la culture surf, même si tu fais déjà des planches, mais j'avais envie de contribuer à la culture surf, ou même c'était pour moi je pense aussi, pour archiver, tu vois. Donc à chaque fois je bossais sur des planches, sur un atelier, même si je faisais juste un petit truc, tu vois, mais si t'as juste fait l'autre côte sur la planche, à chaque fois je prenais la planche en photo. Et du coup c'était pour un peu archiver tout ça quoi. Et puis t'es content des fois de revoir les photos et tout. Donc j'ai fait ça en gros pendant 10 ans quoi, prendre des photos à chaque fois dans tous les ateliers où j'allais. Bah ça a commencé chez WL quand j'étais tout jeune, et puis après ça, j'ai continué quoi, je faisais toujours ça. Et j'avais fait un blog à l'époque quand j'étais gamin, quand j'avais un blog, et en gros J'ai eu un jour, je sais plus qui m'avait donné l'idée, ou je sais plus, je me suis dit. Ou alors, c'est que j'avais perdu. Ouais, j'avais perdu, je crois, en fait. Bah, en fait, j'avais perdu un PC qui avait cramé, quoi, et du coup, j'avais perdu toutes les photos qui étaient dedans. Et heureusement, j'avais encore des trucs sauvegardés sur le blog et tout. Et je m'étais dit, bon, bah, quand même, pour vraiment archiver le truc et garder, je vais faire un format papier, en fait, qui reste, en fait, qui reste pour toujours. Tu vois, tu peux pas le perdre, c'est pas du numérique. Puis après, j'adore les livres, donc j'avais fait ça. J'avais fait ça en auto-édition, j'avais sorti Glass Shop. Et en gros, c'était que des photos de tous les ateliers et des photos des planches, mais t'avais aussi plein de photos de, tu sais, dans les ateliers, dans les trucs, quoi. Il n'y avait pas trop de texte, quoi. J'avais fait un petit texte d'introduction, puis après, c'était que la photo. Donc ça faisait quand même 500 pages, c'était un gros pavé, quoi. Et,
ah oui.
Ouais. Et du coup, donc j'avais sorti ça. Et après, j'avais fait un projet avec Paul Gross et Sam Eaton, un mec qui fait des fins, qui s'appelait Surfboard Dynamics. Ça, c'était un peu en rapport avec les carènes, avec les hulls et tout. Ensuite, ça c'était qu'en anglais. Après, j'ai fait du coup mon truc vraiment que j'ai abouti en fait, c'est Displacement Meet Approach là que je vends encore. Et là, en gros, ça c'était un peu comme Surfboard Dynamics, mais en plus abouti quoi, sur un peu sur mes recherches perso des modèles que j'avais fait. Donc en gros, bah, j'explique ce modèle, c'est comme ça parce que. Voilà, et puis j'ai fait ça, ça marchait pas au début, du coup j'ai changé ça, et puis ensuite, donc voilà, j'explique tout ça, et donc en gros ça présente mes modèles, mais parce que c'était bah, les recherches que je faisais, quoi. Et donc c'est plus personnel au niveau des designs et des.
C'est un journal un peu de.
Ouais, c'est un peu un journal. Ouais.
Tout
un peu un journal sur les modèles. Et du coup, c'est un peu toutes les photos de, je sais plus de quelle année, de 2011 à 2013, je crois. Non, attends, c'est plus vieux. Non, parce que 2011, je crois que c'était Glass Shop. Bref, c'est voilà, c'est un peu sur 3 ans, je crois, de Fantastic Acid, c'est un peu un archive de ça. Donc voilà, ça je le vends encore. Et après, je fais plein de petits fanzines que je vends que à l'atelier ou que je vends pas des fois, que je garde juste ici pour montrer aux gens. Et c'est des trucs sur des sujets très spécifiques, quoi, genre sur les hot curls, sur Pat Curran, sur Joe Quigg. C'est une discussion en gros de Joe Quigg avec Kevin Kinnear. J'ai fait un truc après sur l'histoire de la mousse des planches de surf, donc du passage du bois en gros à la mousse. Ça c'est trop intéressant. Et ça j'ai traduit en français. Ça c'est vraiment intéressant. Il y a des anecdotes assez marrantes. Quand ils se volent un peu les formules de mousse et tout entre Greg Knoll et Hobie, tout ça. Dave Sweet aussi qui fait des expériences dans sa. Qui va à tout prix réussir à faire un pain de mousse et du coup qui fait des expériences pour faire la bonne formule de mousse. Il n'y arrive pas pendant des années, mais tout son pognon là-dedans, il revend sa bagnole et tout et il fait toutes ses expériences dans le sous-sol de. Là, il loue un sous-sol pour y vivre, mais il fait ses expériences là-dedans et le truc explose et tout. Genre, enfin, il y a plein de trucs marrants. Mais ouais, du coup, je fais des petits fanzines comme ça que je mets à disponibilité à l'atelier. Ça, je fais pas de sous là-dessus, c'est juste pour partager, quoi, tu vois, pour transmettre un peu la culture surf, quoi. Voilà.
Ok. Tu les vends pas sur internet du coup ?
Non, ça je les vends pas sur internet. Bah, je vends Displacement de Meet Approach sur internet.
Ouais.
Mais ça, en fait, les petits fanzines, souvent, c'est des recherches qui sont faites par exemple par Malcolm Gottwilliams, qui est un historien du surf et qui fait pas mal de trucs là-dessus. Mais il est jamais trop. Enfin, c'est jamais trop vu au grand public. Mais je l'avais acheté une fois un texte et du coup, il m'en avait envoyé d'autres comme ça. Il est trop content de partager, quoi. Et en gros, moi, je les imprime juste.
Ouais.
Et après, c'est pour ça que je les vends à l'atelier au prix coûtant, le prix que ça me coûte de l'imprimer, tu vois, et d'avoir je fais la mise en page et tout. Mais du coup, je les vends pas sur internet parce que je veux pas le commercialiser, tu vois, je fais pas d'argent sur un truc que j'ai pas écrit ou tu vois.
Ouais, d'accord.
Là, je fais la mise en. Alors après, tu vois, j'ai fait les traductions françaises, tout ça, ça. Mais pareil, ça, je le vends juste à l'atelier, je fais pas de. Voilà.
C'est du taf quand même.
Ouais, mais c'est un truc qui me plaît, quoi, je suis content, ouais. Puis surtout que des fois, j'ai envie de lire ce truc, tu vois, t'as 200 pages, t'as envie de le lire, puis j'ai pas envie de le lire sur mon iPhone ou sur le Mac, tu vois, ça me fait chier. Donc je me dis, je préfère l'imprimer en papier. Et tu sais, moi, j'ai un système de publication, là, c'est comme ça que j'ai fait tous mes livres en auto-édition, je les imprime à l'unité, en fait. Donc je peux en imprimer un seul, ou je peux en imprimer 200 si je veux. Donc du coup, des fois, j'en imprime 10, tu vois, comme ça, il y en a un pour moi que je peux lire dans mon lit tranquille. Et après, j'en ai le reste, je le mets à l'atelier, puis les gens, s'ils en veulent, ils le prennent, tu vois. Mais, voilà, c'est plus pour avoir un format physique. Je déteste lire sur une tablette ou un truc, je trouve ça ridicule.
Et ta petite collection de planches, tu comptes la faire grandir encore ou...
Ouais, bah après, ouais, tranquillou, quoi.
C'est un petit musée, là.
C'est souvent, les collectionneurs, j'adore, après j'ai une super relation avec tous les collectionneurs que je côtoie, et qui du coup, je pense, sont contents aussi de voir que je mets de l'intérêt là-dedans, et du coup, ils sont contents de me soutenir, donc souvent ils m'aident, ils me mettent sur les bons plans, ils me vendent des planches au prix pas cher, tu vois, Donc, et j'apprends beaucoup grâce à eux. Voilà, tu vois, et c'est cool. Et donc, du coup, souvent, voilà, ils me disent, ouais, si tu veux, je peux te faire ça, là, je peux te la vendre pas cher. Ou alors, on l'échange contre une planche, tu me fais une planche, machin et tout. Donc, j'ai envie de continuer comme ça avec eux, d'avoir une bonne relation avec eux comme ça. Après, moi, je vais pas me foutre à fond là-dedans, à chercher à faire les ventes aux enchères et à mettre 5000 euros ou 10 000 balles sur. Tu vois, c'est ça, hein, le prix. Hein.
Oui.
C'est 15 000 plus. Ouais. Donc, tu vois, moi, non, je suis pas. Moi, c'est une collection pas chère. J'ai 2-3 belles pièces grâce aux collectionneurs qui m'ont fait des jolis dons, on va dire, mais parce qu'ils sont contents de soutenir un peu le projet, tu vois. Moi j'aime bien faire un pseudo musée non officiel, c'est un peu du second degré en fait. Quand je dis musée, tu vois, Atlantic Vibration, c'est du second degré parce qu'il n'y a pas réellement de l'espace pour faire un musée.
C'est l'entrée de l'atelier, mais
ouais, même, c'est l'entrée de l'atelier.
Il y a quand même les planches.
Ouais, ouais, il y a quelques planches.
Moi j'étais content, tu vois, de voir
plein
de planches que,
bien sûr,
tu vois, que sur internet.
Bien sûr,
tu les vois pas, quoi.
Bien sûr,
même ou encore plus les françaises, les joueuses.
Ouais, ouais, grave, les françaises, j'adore.
Même sur internet, t'en vois pas tant.
Ouais, non, c'est sûr, ça j'adore. Et du coup, c'est clair que ouais, je continuerai toujours. De toute façon, je te dis ça, mais à chaque fois je craque. À chaque fois, quand on me dit ah, il y a celle-là et tout, je suis là, ah, putain, j'arrive pas à résister. C'est clair qu'à chaque fois je craque. Et en plus, moi j'adore les surfer, quoi. Je trouve ça trop bien de les surfer. La grande partie des planches qui sont là, je les ai surfées, quoi. Il y en a plein que j'ai pas surfé aussi parce que elles m'ont coûté un peu plus cher et puis qu'elles sont très fragiles, j'ai pas envie de les casser.
Ouais,
et tout,
t'as
mais
peur, hein, parce que ouais, vraiment, la résine est quand même.
Ouais, il y en a qui sont un peu fragiles, mais il y en a plein que j'ai surfé et ça j'adore, ça c'est trop bien. Et j'en ai plein à la maison. Hein, Ah bah ouais, à la maison, j'en ai encore plus à la maison. Donc, et à la maison, je les surfe, du coup, celles qui sont à la maison, je les surfe et ça c'est cool. Des fois, j'aime bien, tu vois, descendre à la grande plage avec un gros longboard des années 50, fabriqué en Angleterre, mais avec le logo Joe Mores Biarritz, où tu vois, et tu te dis que ça a été fait pour Biarritz à cette époque-là et toi tu le resurfes à Biarritz, c'est trop bien. Ouais. Ça j'adore. Et puis il y a des sensations à découvrir sur les planches, sur les anciennes planches, ouais. Ça c'est cool. Il y a plein de. J'ai plein d'anciennes planches qui sont très mauvaises aussi à surfer. Et où des fois tu te dis, ah, je vais essayer, et puis t'es là, waouh. Ouais. Et voilà, c'est. Mais justement, ça t'aide aussi à comprendre. D'ailleurs, putain, là, tu vois, un rail comme ça, je ferai jamais, quoi. Genre. Enfin, tu vois.
En tant que shaper, c'est.
Ouais, 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 bah ouais, c'est clair. Mais j'adore, c'est tellement un bel objet. Moi, j'aime tellement les planches, tu vois. Genre, c'est. Voilà, c'est. Chez moi, il y a des planches partout, quoi. Au plafond et tout, j'aime trop, quoi. Tu vois, genre, voir ça tous les jours, j'adore. C'est. Puis tu sais, je trouve qu'il y a une histoire, c'est marrant, il y a une histoire dans les planches, tu te dis, elles ont voyagé, quoi. Elles ont été fabriquées en Angleterre, elles ont été amenées à Biarritz. Et c'est un Ricain qui l'a ramené au Floride. Tu vois, j'ai une vieille Joël Roux, qui a été fabriquée à Biarritz, qui a été une des premières planches que je jouais à la fête, qui m'a dit que c'est lui qui avait fait le pain de mousse aussi, à l'époque, il prenait la mousse isolante des camions frigorifiques et tout. Cette planche-là, je l'ai récupérée en Floride, j'étais la chercher en Floride, tu vois. C'est ouf, quoi. Tu te dis, genre. Et le mec là qui me faisait shaper en Floride, il me disait putain, Joël, tu shapes pour un roux et tout, regarde, j'ai ça dans mon jardin et tout. J'étais là, waouh, putain, j'ai montré à Joël, me dit, ah ouais, c'est une de mes premières planches. Et je l'ai ramené, quoi, tu vois, quand j'étais shapé là-bas, après je l'ai ramené. Le mec il me l'a offert en plus, il me dit, bah tiens, je te la donne, c'est un cadeau, ça me fait trop plaisir, quoi, tu vois, donc ça c'est trop cool. Donc il y a toutes ces histoires là aussi où les planches de collection, ça ramène aussi des gens ensemble. C'est pas que la planche en soi, c'est, voilà, moi j'ai fait des belles rencontres aussi de, genre, tous les collectionneurs que je côtoie, c'est des gens que j'adore. Et j'apprends beaucoup. Et eux, c'est des tarés de l'histoire. Eux, ils connaissent toute l'histoire. Tu vois, genre Stéphane Joly qui collectionne que des planches anglaises. Il connaît toutes les dates, il connaît tous les trucs, il connaît tout. C'est incroyable. C'est génial, du coup, j'adore. Tu vois, quand il vient là, on parle, j'apprends tellement. Tu sais, il te dit, ah non, ça c'est telle année. Et lui, il a bossé pour lui à cette époque-là. Et ça, c'est ouf, quoi. Tu vois, genre, c'est trop bien, je trouve, de pouvoir. Donc, grâce à eux, c'est sûr qu'il y a une mémoire. Il y a une mémoire des shapers et des planches et tout, quoi.
Bah écoute, je crois que
4 heures presque.
Ouais, il y a eu des pauses.
Ouais, ouais, ok. Pauses.
C'est bon. Cool, merci beaucoup.
Bah de rien, avec plaisir. Merci d'être venu. Ouais.
Et voilà pour cette deuxième partie consacrée aux planches de Tristan Moss alias Fantastic Acid. Merci Tristan d'avoir pris le temps de participer au podcast et d'avoir partagé ton expérience. Rendez-vous sur son Instagram Fantastic Acid et sur son site fantasticacid.com. pour découvrir tout son travail et suivre son actualité. Vous y retrouverez les liens de ses deux autres labels. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner au podcast. Vous pouvez également suivre le compte Instagram shape.ology pour être au courant des prochaines sorties et découvrir le reportage photo de l'épisode. Enfin, rendez-vous sur le site shapeology.fr où vous retrouverez l'ensemble de nos épisodes, mais aussi un lexique, un annuaire des shapers français et plein d'autres contenus à venir. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.